C'est la chronique mensuelle Sexy Able, santé et sexualité, avec Marianne Rodrigue, stagiaire en sexologie chez Vie Autonome Montréal. Aujourd'hui, on parle des liens entre relations saines et égalitaires et sexualité. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Donc, c'était pour faire suite finalement aux précédentes chroniques qu'on a eues après avoir rencontrer un partenaire après avoir séduit le partenaire ou la partenaire. On va maintenant parler de relations saines et égalitaires.
Exactement, oui. Donc, plusieurs statistiques en situation de handicap ressortent qu'il y a plus de victimisation sexuelle et de violence conjugale et pour plusieurs raisons. Et donc, c'est pour ça que je voulais focusser un peu, pas nécessairement sur les négatifs, mais plus ce qu'on peut faire pour avoir des relations saines, puis vraiment que ça soit égalitaire et sécuritaire.
Justement, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même connu, qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes aussi, qui peuvent être victimes d'abus de différents types parce qu'ils sont en situation de handicap, qu'ils sont souvent en situation plus vulnérable par rapport à une autre personne, parfois même aussi sont en situation de dépendance aussi par rapport aux autres personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on crée une relation avec quelqu'un pour essayer d'éviter justement ces situations-là d'abus?
Oui, mais il y a certains signes à regarder, en fait, à éviter. Mais en fait, il y a plusieurs choses à regarder quand on établit une relation avec quelqu'un. On peut... il y a certaines choses comme la compatibilité, pardon.
Et non pas la comptabilité,
exactement.
Effectivement.
Donc, s'assurer vraiment que nos besoins et les besoins de l'autre personne, nos désirs, nos envies, nos intérêts sont semblables. S'assurer d'avoir une communication saine aussi. Faut se sentir confortable de parler de ce qu'on veut parler avec notre partenaire et de ressentir aussi que le partenaire est confortable de communiquer avec nous. Faut être honnête et responsable dans le sens que responsabilité, c'est d'assumer ses sentiments et ses comportements. Souvent, on va avoir peur de dire certaines choses à notre partenaire parce qu'on va avoir peur des réactions. Mais être responsable, c'est vraiment s'assurer que l'autre, le partenaire, on lui donne toutes les informations pour bien répondre à nos besoins. Mm-hmm. Et la première étape, c'est de communiquer ces besoins-là. S'assurer qu'il y a un partage des pouvoirs égalitaires. Donc, le pouvoir change un peu souvent dans les relations, dépendamment des sujets, mais de vraiment s'assurer qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent respecté, écouté. Quand il y a des désagréments, qu'il y a de la place à la négociation aussi dans un couple. C'est un mot qu'on n'associe pas nécessairement avec relation saine. Mais là, s'il faut que je négocie, on a souvent l'idée que tout doit être parfait dès le début. Mais une relation saine, c'est quand même du travail, mais le jeu en vaut quand même la chandelle.
C'est justement cet aspect de négociation, c'est justement pour et de partage des pouvoirs. C'est aussi dans l'idée de faire des compromis, hein, finalement. Mm-hmm. C'est dans tous les types de relations.
Exactement.
Et est-ce que vous avez un exemple sur justement ce côté de partage des pouvoirs ou en tout cas de la balance du pouvoir, s'assurer que ce soit équilibré dans une relation?
Oui, mais en fait, c'est de s'assurer que ça soit pas toujours les mêmes personnes qui prennent les décisions. Donc, on peut dire, regarde, cette fois-ci, moi, ça me tient vraiment à cœur d'aller, par exemple, on décide où est-ce qu'on s'en va en vacances. Mm-hmm. ça me tient vraiment à cœur, mais la prochaine fois, ça va être toi. Tu sais, de laisser vraiment la place à l'autre et de pas toujours prendre les décisions parce que ça enlève le pouvoir à l'autre personne. Ça fait que la personne se sent moins estimée, se sent moins importante, puis va avoir tendance à ne pas prendre autant de place qu'il devrait dans la relation.
Mm-hmm. Une autre caractéristique de la sexualité dans un contexte de relation saine, mm-hmm. C'est une fois qu'on a mis en place justement ces bons moyens de communication et de communication claire aussi. Mm-hmm. Ça inclut si on peut avoir des difficultés d'élocution ou justement qu'on parle par exemple la langue des signes, c'est de trouver aussi le meilleur moyen de communiquer.
Oui, exactement. Puis la communication, c'est pas toujours verbal. Ça peut être non-verbal aussi. Il faut être attentif. Quand quelqu'un nous dit « oui, c'est correct », avec une petite sad face, mais on peut peut-être vérifier, voir si c'est vraiment correct mm-hmm. ce qu'on a dit, oui.
Justement, ça m'amène à parler de la notion du consentement, mm-hmm. qui est très, très, très importante,
oui.
qui n'est pas un mot qu'on a eu dans les cours d'éducation sexuelle il y a 15 ans,
non.
il y a 20 ans. C'est une notion qui est beaucoup plus récente,
ouais.
Qui est importante. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour la définir.
Oui, en fait, donc, comme tu disais, le consentement, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti dans les dernières années. Je pense que vous avez eu d'autres entrevues à la station ici là-dessus. Donc, le consentement, dans un contexte de sexualité, c'est... un accord d'une personne à une activité sexuelle s'est manifesté de façon volontaire. Donc, c'est pas seulement le consentement, c'est pas seulement de dire non, c'est de dire oui. C'est quelque chose d'actif. Le consentement doit être libre, éclairé, continu et personnel. Je m'explique. Libre, donc, il doit pas avoir de menaces ou avoir peur de représailles. Donc, il faut vraiment que ça soit en toute liberté. Il doit être éclairé. Donc, si on est sous l'effet de substances, alcool, drogue, médication lourde, ça peut être un indice que le consentement peut être biaisé. Le consentement doit être aussi continu. Donc, c'est avant, pendant et après. On peut retirer son consentement à n'importe quel moment. Et donc, c'est important d'avoir une communication saine et continue avec son partenaire pour vérifier à tout moment le consentement. Et le consentement doit être personnel. Ça veut dire que moi, je ne peux pas donner le consentement à quelqu'un d'autre, donc, ou mon père ne pourrait pas donner mon consentement mm-hmm. à mon conjoint. Donc, ça vient vraiment de la personne. Et ça peut être quelque chose qui est important, une notion importante pour les personnes en situation de handicap, justement, qui ont de la difficulté à communiquer ou qui ont des préposés. Là, la notion peut être un peu biaisée. C'est vraiment important de vérifier, d'établir des façons de communiquer le consentement et de le vérifier et aussi de l'accepter.
Mm-hmm. Tout à fait, oui. Ça, parce que c'est ça le principe du consentement, en fait. C'est après, avant d'aller de l'avant ou de continuer dans l'activité sexuelle, s'assurer que les deux personnes sont à l'aise et ouais. sont bien. C'est l'objectif mm-hmm. d'une vie sexuelle épanouie. Justement, cet aspect-là de consentement, on le dit que c'est personnel. Donc, oui. un proche aidant... Un préposé ne peut pas affirmer quelque chose à la place de la personne dont il est en charge.
Exactement.
Je lisais que, justement, il y a les personnes handicapées qui sont habituées dans leur quotidien à recevoir des soins intimes, des soins d'hygiène corporelle, oui. entre autres, peuvent tolérer parfois certaines formes moins sévères d'abus à caractère sexuel, parce que justement, ils sont habitués à se faire toucher,
c'est une étude très intéressante. Certains des répondants disaient qu'eux, ils n'ont pas compris ça, ils n'ont pas vécu ça comme une agression sexuelle parce qu'ils sont tellement habitués, justement, d'avoir des gens qui les touchent, qui ne demandent pas nécessairement le consentement, qui prodiguent les soins sans vérifier. Et donc, il y a une espèce de... déconnexion entre oui, j'ai le droit de vouloir quelque chose ou de pas de vouloir quelque chose et ce qui m'arrive. Donc, et certaines personnes aussi peuvent être en situation de dépendance et là se dire ah, ça c'était. J'étais pas consentant, mais c'est pas si pire. Ou si je dis quelque chose, je peux avoir des représailles. Ou si je sors de cette relation, comment est-ce que je vais faire pour me trouver une autre relation ou comment je vais faire pour trouver quelqu'un qui m'apporte ces bénéfices-là aussi, justement, de prodiguer les soins ou d'être mon compagnon.
Tout à fait, parce qu'il y a cette inquiétude-là, parfois, chez certaines personnes en situation de handicap, de ne pas se trouver de partenaire.
Mm-hmm. Oui, dans une autre étude, c'est ressorti, c'est une étude qui mettait l'emphase sur les femmes, qui étudiait les femmes, et ça ressortait beaucoup que les femmes portaient tellement d'importance à être en couple, plus que chez les hommes, et donc allaient... être prête à subir ou à vivre des choses qu'elles ne préféreraient pas vivre, mais qui choisissent de rester dans ces situations-là, justement, pour ne pas être seule, pour ne pas être célibataire.
Mm-hmm. Donc, c'est y a encore aussi une certaine part de sensibilisation mm-hmm. et d'éducation même à faire afin de bien déceler, justement, qu'est-ce qui devient un abus à caractère sexuel, dans quel contexte est-ce que ça a lieu, pour le repérer et pouvoir justement essayer de réduire ces situations-là qui peuvent subvenir. Ce contexte de consentement, on a fait un bon morceau là-dessus, mais c'est pas la seule chose non plus qui est importante quand on développe une relation saine.
Absolument.
Et pour la sexualité, il y a aussi, bon, la communication. Peut-être aussi parler de protection contre les ITSS, entre autres, moyens de contraception.
Exactement. Puis c'est important d'avoir une discussion là-dessus, hein. De ne pas prendre pour acquis que son partenaire va se protéger, va utiliser le condom ou utilise la pilule. C'est vraiment important d'avoir une conversation, puis de répartir aussi, de séparer le poids contraceptif et de protection. Donc, si on est ménopausé, bien là, on n'a pas besoin de prendre la pilule, donc ça peut être notre partenaire qui utilise le condom. Autrement, si on est dans une relation monogame, la femme peut choisir de prendre la pilule et l'homme de ne pas utiliser le condom, mais c'est important d'en parler et de choisir ensemble une stratégie contraceptive et de protection.
Mm-hmm. C'est la responsabilité des deux partenaires.
Absolument.
Et non pas seulement d'une personne. En terminant, Marianne, vous aviez aussi peut-être des ressources si on souhaite aller chercher plus d'informations?
Oui. En fait, il y a un TED Talk de Al Vernaccio qui est très intéressante. Lui, compare les relations sexuelles à des pizzas. Et donc, il dit qu'est-ce qui est la première chose qu'on fait quand on veut manger une pizza avec quelqu'un? Et puis, on discute des ingrédients qu'on veut. Et donc, on négocie et on choisit ensemble. Comme ça, on s'assure toutes les deux d'aimer la pizza qu'on va manger. Et donc, on devrait faire ça aussi avec les relations sexuelles. S'assurer d'avoir... Puis, tu sais, il y a des millions de façons de manger une pizza et d'avoir des ingrédients. Donc, je vous invite à aller écouter cette discussion. Et sinon, il y a sur le site de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, il y a un outil qui s'appelle la liste sexy, qui est un outil qui parle justement de plusieurs comportements sexuels. Et on peut regarder, voir, OK, ça, je serais prêt à faire ça dans tel contexte, et ça peut être quelque chose d'intéressant à faire avec son partenaire, remplir seul et après en discuter pour vraiment s'assurer d'avoir le consentement et dans quel contexte aussi.
Mm-hmm. Merci beaucoup pour ces ressources, Marianne Rodrigue. Vous êtes stagiaire en sexologie chez Vie Autonome Montréal. Merci de nous avoir partagé ces petits trucs pour justement une santé sexuelle et des relations saines et équitables à développer. Merci beaucoup.
Merci.